Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence, enfin, 14h03, en ce mercredi 27 mars 2019. Christophe Rollin au micro. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie, puisque Gérald est de retour, et nous recevons Irène Frachon elle-même, non, presque, nous recevons Catherine Vinatier, comédienne qui incarne très bien, magnifiquement, Irène Frachon. Actuellement, non pas au cinéma, un film a été tourné il y a quelques années de cela, c'est vrai, mais non, qui incarne au théâtre, dans la pièce « Mon cœur ». Un choc théâtral sur le scandale du Mediator, une pièce de Pauline Bureau dont le texte est également écrit, une pièce de Pauline Bureau qui écrit à la fois le texte et qui met en scène également. Donc cette pièce est donnée depuis hier, mardi 26 mars jusqu'à ce vendredi 29 mars au Théâtre de la Croix-Rousse et c'est très bien, vraiment très bien, parce que ce n'est pas que l'affaire du Mediator, c'est bien plus encore. Pour en parler donc, Catherine Vinatier, Gérald également aux questions, et puis une belle bande musicale, programmation musicale que nous a proposé Gérald. Nous commençons avec la musique extraite de ce spectacle, un titre de Beth Gibbons, Tom the Model, dans l'album Beth Gibbons et Resting Man Out of Season. C'est pour commencer, vous pourrez l'entendre, c'est à peu près à la moitié du spectacle je crois. Mais nous, pour l'instant, nous sommes à l'antenne jusqu'à 15h comme tous les mercredis, et vous pouvez nous écouter, c'est très bien si vous le faites, sur le radiocanu.org, ça c'est plutôt en replay, éventuellement en podcast, ou bien vous pouvez le faire en direct sur le 102.2 de la bande FM à Lyon. Et puis c'est tout. Nous commençons avec Beth Gibbons et nous continuons avec Catherine Vinatier pour cette pièce Mon cœur au théâtre de la Croix-Rousse. There's nothing Gérald, je t'en prie.
Bonjour Christophe, bonjour Catherine, Vinatieu, notre invité du jour, qui est comédienne et qui participe à un spectacle excellent qu'on a vu hier au Théâtre de la Croix-Rousse du 26 au 29 mars. Il sera donné peu de temps, allez-y. Texte et mise en scène de Pauline Bureau, ça s'appelle tout simplement « Mon cœur ». Mais c'est un vaste sujet, un sujet brûlant d'actualité, un sujet décoiffant et très important.
Qui porte sur, tu peux l'annoncer.
Qui porte sur le scandale de Mediator.
Sur cette
mais qui parle de beaucoup d'autres choses aussi.
Ah, bien plus encore, exactement. Petit portrait, bref, de notre invité, Catherine Vinatier. Pourriez-vous, je ne sais pas... Alors, on va faire de plus en plus bref ces différents portraits en début d'émission, mais il me semble qu'il faut quand même les faire. Pourriez-vous répondre, Catherine, à cette question, c'est qui êtes-vous, Catherine Vinatier? Comment êtes-vous venue dans ce spectacle?
Quelle question.
On dirait une Frachon, après on en parlera.
Qui je suis par rapport au... Comment je suis venue dans cette pièce?
Voilà.
Ou même
dans le théâtre,
comment êtes-vous,
en général.
Comment également êtes-vous venue
un petit parcours
à l'art
biographique.
Autobiographique. Petit parcours, oui. Je pense la télévision, les jeux, avec mes amis, enfin moi-même quoi. Comme un petit secret que j'avais, un désir que j'avais de jouer ou de danser ou de faire des spectacles, mais bon, je n'en parlais jamais. Enfin, c'était un rêve, juste. Mmh. Je ne m'en occupais pas tellement de ce rêve, il était là et il me faisait vivre, hein, sûrement. Et pour aller très vite, j'ai jamais compris pourquoi, mais quand je suis arrivée au lycée, des gens de terminale sont venus me trouver dans la cour d'école du lycée, me demandant de jouer Antigone d'Anouilh. Et j'ai dit bien sûr que non.
Ah ben non.
Bien sûr que non, je ne sais absolument pas faire du théâtre, mais c'était des grands. Ils étaient grands pour moi. Bon, voilà. Et finalement, j'ai dit oui, parce qu'ils ont beaucoup assisté.
Vous étiez en seconde, alors plus jeune.
J'étais en première. Mais j'étais jeune en première. Donc voilà, pour moi, ils étaient grands. Quoi.
Il est splendide, ce texte, non? C'est quand même génial, Antigone, quand on
Antigone,
parle de...
Antigone, mais c'est extraordinaire, oui. Quand t'as 15 ans, c'est...
Ah ben voilà, oui. Non, créons mon oncle. Vous, votre petit bonheur, là, votre petit bonheur qui vaut rien du tout. Moi, je veux tout. Je veux l'absolu.
Étudié en première, d'ailleurs.
Je l'avais étudié en seconde, je crois. Donc je savais très bien de quoi il s'agissait quand ils sont venus me trouver, mais je comprenais pas. On était 2000 dans ce lycée, je comprenais pas pourquoi ils sont venus me trouver.
Donc une élection, vous avez été élu
oui,
Miss Antigone.
Plus tard, je crois qu'ils m'avaient entendu râler à une sorte de comité du lycée pour je ne sais pas question de cantine, je ne sais pas quoi.
Repéré déjà.
Et je pense qu'il m'avait repéré comme ça.
Casting sauvage.
Voilà. Et une fois que j'ai joué ça, j'ai pris la décision personnelle, plus du tout personnelle parce que je suis à la radio, mais personnelle et secrète d'aller là. Voilà, je ne savais pas du tout comment, parce que je ne suis pas du tout d'une famille d'artistes. Donc je ne savais pas du tout comment il fallait s'y prendre, mais...
C'était dans un lycée de la région?
Non, dans un lycée de banlieue parisienne.
D'accord.
Bon, on fait une entorse, hein, on ne reçoit normalement que des Lyonnais. Non.
À la télévision, c'était au théâtre ce soir là. Ou c'était quoi?
Oui, la télévision, c'était au théâtre ce soir, bien sûr. Au théâtre ce soir, Jacqueline Maillan, Maria Pacoum, Rosie Vart. Moi, j'étais très, très fan. Hein, donc, voilà. Et les films, beaucoup de films. Et ça, pour le coup, les films, c'était... C'était Buñuel, c'était...
À l'époque, il passait des bons films, il y avait trois chaînes, mais
voilà,
il y avait aussi de l'écran aussi.
Voilà. C'est ça.
Et alors, depuis, les planches.
Oui.
Vous enchaînez les rôles classiques, contemporains, un peu de tout.
Je ne fais que du théâtre contemporain.
Ah d'accord, pas de Corneille, Molière, vous n'avez
non,
pas...
Jamais.
Andromaque, Racine, tout ça, non?
Jamais. Non.
Et par goût.
Ça ne me tenterait pas?
En fait, si, ça me tenterait, mais... Je regrette de ne pas les faire, mais en fait, je pense que si j'ai le choix, je vais toujours choisir l'autre. Mmh. Celui du théâtre vivant, du théâtre contemporain, mais c'est comme ça. Et maintenant, je me dis, ça fait 25 ans que je travaille, j'ai pas fait... Mais encore une fois, je re-choisirai, je pense, hein, je voudrais pas...
Et quels ont été vos auteurs de prédilection, vos personnages, en gros, quoi? Dans ces 25 années d'interprétation?
J'ai beaucoup aimé jouer Werner Schwab, qui est un auteur autrichien. J'adore jouer avec Pauline.
Ah, Pauline Bureau.
Pauline Bureau.
Metteur en scène également.
Qui invente ses textes avec nous.
Auteur du texte, oui.
Voilà.
Mon cœur.
Pierre-Yves Chapalin, qui est aussi écrivain, un écrivain donc d'aujourd'hui, quoi. Mmh. Et j'ai joué un Shakespeare, quand même. Dans Richard III, et vraiment j'ai adoré jouer ça, oui. Je me suis dit, ah oui. Ah oui, c'est pour ça que c'est si connu. C'est extraordinaire.
Et ces autres dramaturges contemporains, il y a les Français, Éric-Emmanuel Schmitt, Fabrice Melchiot, Olivier Py, ou bien...
Oui.
Olivier, je le connais parce que j'étais au conservatoire avec lui, et on se connaît du coup, mais je n'ai jamais travaillé avec lui. Et les autres, non, jamais travaillé avec eux.
Vas-y, Gérald Delors, relance-le ce nom.
Jean-Luc Lagarce, non.
Jean-Luc Lagarce, oui, c'est magnifique. Magnifique. J'ai commencé un peu à travailler sur une pièce, mais finalement, je ne l'ai pas faite, j'ai fait autre chose. J'ai fait une pièce d'Edouard Bond à la place.
Ah oui, donc j'étais sur des Français, mais également les Anglais, c'est ça. On est sur Bond, il y en a un autre aussi.
Harold Pinter,
c'est exactement. David Ayer, peut-être
Non. Maintenant, vraiment, toutes ces dernières années, je ne travaille qu'avec des auteurs vivants.
Mince.
Pourquoi mince? Mais c'est magnifique.
Thomas Bernhard, non, c'est par exemple...
Thomas Bernhard, c'est génial. Non, vraiment, j'adore. Mais je n'ai pas travaillé Thomas Bernhard.
Ouais, il est mort depuis 30 ans, je crois.
Puis on ne peut pas tout travailler non plus.
Non, on ne peut pas tout travailler. Ouais, c'est ça.
Et donc un partenariat...
C'est ça, mais on peut les lire, on peut aller les voir et on peut s'en nourrir quand même. Quoi,
Attention, lire excès. Lire du théâtre, c'est un peu ingrat. Il faut voir les pièces. Et d'ailleurs, auditeurs, auditrices... Mon cœur, vous pouvez le voir actuellement, jusqu'à ce vendredi 29 mars, avec un bord de scène, je suppose, je ne sais plus, Gérald Way.
Ce soir, il y a un bord de scène.
Voilà, ce soir même. La représentation dure 2 heures, sans entracte, mais il ne faut pas d'entracte dans un spectacle pareil, c'était très judicieux de ne pas en faire, je pense. Ça commence à 8h moins 10, 8 heures quoi.
20 heures.
Donc voilà, jusqu'à
22h. Est-ce que, jusqu'à ce vendredi 29 mars, est-ce que vous pourriez nous parler aussi peut-être de ce compagnonnage, comment nommer cela, avec Pauline Bureau, puisque vous dites à l'instant, beaucoup travaillé avec elle.
C'est le troisième spectacle que je fais avec elle, et à chaque fois on tourne, donc ça fait... On prend le temps de créer, il y a plusieurs mois de création, et ça joue beaucoup en général les spectacles de Pauline, parce qu'ils sont... Formidable.
Fort et formidable.
Et puis, ça parle aux gens. Donc, voilà. Donc, oui, il y a une équipe qui bosse. Moi, c'est que le troisième spectacle. Il y en a qui en ont fait 7, 8, 9, 10 spectacles.
Tant que ça, de Pauline, oui. Moi, il me semblait que...
Et oui, parce qu'elle a commencé à créer au conservatoire. Et il y a beaucoup de gens de la troupe qui sont ses compagnons du conservatoire. Donc, c'est une équipe très soudée. Où tu rigoles beaucoup. Enfin, moi, ça me fait beaucoup de bien de travailler avec eux. Et je sais pas, j'aime beaucoup l'écoute de Pauline. Elle est très, très... assez profonde et intuitive. Je sais pas. On s'est rencontrés un petit peu. Voilà. J'aime comment elle écoute ses acteurs.
Et puis le fait une équipe comme un peu dans, certains cinéastes travaillent souvent avec les mêmes acteurs parce qu'il se passe quelque chose et ça marche et c'est jamais la même chose et en même temps ça fonctionne.
Oui, ça va. Travail, quoi. Forcément, ouais, ça va beaucoup plus vite. On est plus gêné d'inventer.
Ah, mais c'est très bien. Non, on vous l'avait dit. Il peut y avoir quelques blancs, ce n'est pas un problème.
Ah oui, il y en a d'ailleurs dans les spectacles qui sont vraiment.
Excusez-moi,
silence. Ils sont nommés silence. Est-ce que l'écriture se fait au plateau ou il y a tout de même écriture, publication avant? Et puis parce que par exemple ce texte Mon cœur existe, disponible chez Actes Sud.
En différentes versions.
Non, ça c'est autre chose. Est-ce que l'écriture se fait au fur et à mesure, work in progress ou bien non?
Enfin, l'écriture en fait, Pauline, avant de commencer les répétitions, est allée voir, rencontrer beaucoup de... Malade.
Ah, moi, je pensais aux pièces en général. On
pense aux pièces en général. Elle arrive avec une. À chaque fois, ça a été un peu différent, mais elle arrive avec une trame, ou un début de trame, ou quelques pages de texte. Des fois, beaucoup de pages de texte, des fois, peu. Après, il y a une période d'improvisation autour des textes. Et puis. Et après, elle retravaille seule. Donc, par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce qu'elle a envie de tout bouleverser aussi. Enfin, des fois, elle bouleverse tout ce qu'on a fait. Et voilà, c'est un mélange.
Sirène, je crois, c'est ça? C'est
ouais,
un autre de ces textes. Vous avez travaillé sur ce spectacle?
Oui.
Et donc, pour Mon cœur, également, ce même procédé d'écriture
Elle a peut-être plus écrit sur Mon cœur que sur Sirène. écrit seul, je veux dire. Voilà, parce que quand même, tout ce qu'il dit sur mon cœur, c'est vrai. Enfin, c'est réel, en tout cas. Ce sont des choses qui sont arrivées. Sirène, on a plus mêlé notre imaginaire avec...
La réalité.
Oui, avec son écriture. Enfin, c'était plus possible parce que c'était plus aussi dans l'imaginaire.
Voilà.
Donc là, c'est presque documentaire, en fait, ce qu'on fait là.
C'est ça, on va en parler bientôt. Ah ben, précisément, mais avant de,
nous
de
sommes presque
faire
disposés.
Une petite pause musicale, pour en finir avec Pauline Bureau. Non, c'est, on ne va pas en finir, au contraire. Mais je vais utiliser ce très bon prospectus du Théâtre de la Croix-Rousse.
Le petit programme.
Pour résumer un petit peu, donc, ce spectacle a été primé en plus. Alors, Pauline Bureau est auteur, attention, mais est metteur en scène. Elle suit une formation au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique et fonde la compagnie La Part des Anges, avec les acteurs qui sont toujours au cœur de ses spectacles aujourd'hui. En 2014, elle écrit et met en scène Sirène et signe dès lors le texte de la plupart de ses créations, tous publiés chez Actes Sud Papier. En 2015, Pauline Bureau reçoit le prix Nouveau Talent Théâtre de la SACD. Cette même année, elle crée Dormir sans temps. Le spectacle reçoit le double prix public et jury de Momix 2016, Festival International de la Création pour la Jeunesse, ainsi que le Molière 2017 du spectacle Jeune Public. En 2017, elle crée Mon cœur et Les bijoux de pacotille de et avec Céline Mia Baumgartner. En 2019, sur invitation du directeur du CDN de Normandie, Martial Di Fonzo Bo, elle devient artiste associée à la Comédie de Caen. Voilà, petit parcours aussi de Pauline Bureau.
Un beau parcours et gage tout de même de qualité. Enfin, du moins même, vous Catherine, vous estimez, vous pensez, enfin, c'est très bien, c'est ça. C'est toujours délicat de verser un peu, d'éviter de verser dans la flatterie, flagornerie. Mais ouais, auditeur, auditrice, c'est un bon spectacle. Enfin, du moins, c'est bien écrit, c'est fort sur scène, ça peut être émouvant.
C'est nécessaire comme spectacle.
C'est même nécessaire, c'est ce qu'on peut dire également. On est prêt à en parler, je crois, de ce Mon cœur. On est prêt à entrer dans Mon cœur. Peut-être une dernière et éventuellement question. Est-ce qu'on peut vous voir, certes, sur les planches, vous l'avez dit, et au cinéma, téléfilm un peu de télévision, est-ce que vous jouez ou des publicités,
je sais pas. Ça m'arrive de temps en temps. Bah, j'ai joué dans 120 battements par minute, donc ça c'est...
avec un film primé, je crois, hein, c'est ça c'est,
Oui, qui a eu...
À Cannes, c'est ça
Grand Prix à Cannes, ouais.
Ah, vous avez dévalé les marches, alors?
Non, je n'y suis pas allée parce que j'étais en train de tourner, de croiser entre deux pièces, et je n'ai pas pu descendre.
Et puis, d'autres choses peut-être?
Et non, pour l'instant, non.
Pour l'instant. C'est déjà pas mal.
Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Nous allons donc plus précisément entrer dans
le cœur du sujet.
Dans le cœur du sujet.
Permettre la blague.
À savoir mon cœur. Rappelle-nous Gérald, si, moi je pense qu'il faut le faire avec le bord de scène. Rappelle-nous toutes les dates.
Ce soir, 27 mars, bord de scène. Le spectacle est diffusé très peu de soirs, hein, du 26 au 29. Donc ce soir, jeudi, vendredi, c'est fini. Allez-y, c'est à 20h, ça dure 2h. C'est renversant, c'est nécessaire, comme notre invité vient de le dire. C'est poignant, mais... Il n'y a que des avantages et que des qualités. Je vois des amis à travers la fenêtre, ça m'a perturbé. Donc, c'est à voir, franchement, parce que ça remue, mais on va en parler. C'est juste, quoi. C'est cru, mais c'est juste.
Ça parle de notre société, donc c'est important d'y aller.
Oui. Allez-y, franchement.
Et alors, Gérard, qu'est-ce qu'on écoute? Tu commentes après?
Ça secoue un peu, mais ça fait du bien aussi d'être secoué.
Ce que nous allons écouter.
Je cherchais des chansons avec le cœur. Il y en a tellement avec le cœur. Ou alors,
on aurait pu trouver
par
aussi
rapport à la pharmacie, au lobby pharmaceutique.
On aurait pu trouver Dany et Dao.
Capitalisme sauvage. Bonjour tristesse, mon cœur reste toujours le même. C'est une vieille bande-son que Wenders avait utilisée dans Les ailes du désir. Donc ça ne rajeunit pas. Toxedomoon, c'est de la Cold Wave, de l'excellent album mythique Holy Wars.
Too much, you want much too much from me. You need me too much, you need such a lot from me. Can't you let me be just as good as I am? Can't you let me be? Can't you see who I really am? I don't want
excellent Bonjour Tristesse, citation de Françoise Sagan, de Toxo de Moon, un album des années 90 peut-être, ça ne nous rajeunit pas. Alors Bonjour Tristesse, bien sûr, mais bonjour aussi Colère, bonjour tout l'éventail des sentiments humains dans ce spectacle. C'est un, on parlait à l'instant en antenne, un théâtre engagé, cru, vivant, qui a une prise directe sur la réalité du scandale du Mediator. Mais il y a tout le panel des sentiments humains qui passe.
Cette pièce Mon cœur de Pauline Bureau, mais vraiment de Pauline Bureau, à la fois le texte ainsi que la mise en scène, cette pièce, c'est un peu délicat de le dire, mais quand même cette pièce bien supérieure au film La fille de Brest, un film intéressant mais qui, me semble-t-il, reste trop documentaire et trop sur l'histoire d'Irène Frachon. Mmh. Alors que dans cette pièce, il est question, Catherine, vous pouvez nous le dire, il est question d'Irène Frachon. Vous-même, vous ouvrez d'ailleurs la pièce avec un texte. Ce sont les tripes qui parlent. Et puis également les histoires aussi des sœurs Tabar et puis de Hugo. Peut-être que vous, Catherine Vinatier, qui incarnez, qui êtes Irène Frachon, peut-être pourriez-vous davantage nous parler de ce personnage, de ce rôle. Vous m'avez dit tout à l'heure avoir rencontré Irène Frachon à diverses occasions.
Comment parler d'Irène?
Catherine, rappelez pour nos auditeurs quand même qui ne connaissent pas qui est Irène Frachon, son livre.
Irène Frachon est une pneumologue qui. C'est elle qui a sorti l'affaire du Mediator, comme on dit. Hein, c'est une lanceuse d'alerte. Mm-hmm. C'est une lanceuse d'alerte dans le sens où elle a dû se battre énormément contre les laboratoires Servier et contre donc des laboratoires très puissants. Et qui lui ont mis beaucoup les bâtons dans les roues, hein, c'est sûr. Et donc, elle a découvert par la pneumologie un problème qui était beaucoup du cœur, en fait. Mmh, mais de par ce qu'elle a fait quand elle était interne, etc., un jour, elle s'est mise, en voyant des malades respiratoires, découvrir, avoir une sorte d'intuition. Sur les médicaments coupe-faim qu'elle avait déjà rencontrés quand elle était interne.
Un précédent.
On s'en méfiait déjà un peu.
Voilà. mais bien sûr, ce n'est pas la seule médecin à avoir alerté sur le Mediator, sauf qu'elle, elle n'a jamais lâché et elle est allée au bout
de sa démarche.
Au bout de sa démarche. Ça a duré des années. Elle y a laissé une bonne partie de sa vie. Je crois qu'elle a pu dire, elle a pu dire des choses comme « il m'a volé ma vie ». Mmh. Même si je voudrais pas parler trop pour Irène, même si ça lui a énormément aussi apporté, mais elle l'a fait, elle a combattu enfin avec un acharnement très rare et beaucoup beaucoup de courage.
Et ce n'est pas encore terminé. Hein. Ce n'est pas terminé.
En
2019, à la rentrée, septembre, enfin automne, enfin je sais pas, fin de l'été. Procès, un procès, c'est quoi, pénal ou civil? Faudrait demander à Hugo.
Pénal, un procès, puisque le médicament a été interdit en 2009 et jusque-là, il n'y a eu aucun procès pénal.
Alors,
il y a eu certaines indemnisations
par le biais de
victimes.
D'accord, au NIAM, je ne sais plus quel est le terme.
Soit directement avec les laboratoires, mais souvent très bas.
À l'amiable, oui.
Ce qu'ils appellent à l'amiable. Mais. Évidemment, du coup, sous clause de confidentialité, pas le droit au recours, etc. etc. Mmh. Et à la plainte et tout. Et puis, sinon, à l'ONIAM qui se substituait à Servier, enfin, l'État se substituait à Servier si l'indemnisation ne se faisait pas ou était trop basse et Servier après devant rembourser, enfin, l'ONIAM. Mais le procès en pénal, il y a quand même. Procès pour homicide aussi involontaire. Enfin, il y a des catégories qui sont très violentes, conflits d'intérêts, etc.
Il y a un moment où même la notion d'homicide involontaire n'est pas trop adaptée, puisque c'est des gens qui avaient conscience des dégâts et qui savaient que ce médicament était dangereux pour la santé et pouvait causer des troubles, du malheur, de la maladie, qui a été quand même vendu, donc homicide.
Donc c'est ça le point qu'on ne dit pas là, c'est que c'est pas juste un médicament qui a posé des problèmes et des problèmes mortels, c'est un médicament dont plein de gens savaient que ça allait poser des problèmes. Donc ça change tout évidemment, parce qu'à partir de là, il y a une attitude délinquante, criminelle, et des fois donc criminelle, puisqu'il y a des morts.
Combien?
Ben, on évalue
des centaines,
voire 2000 morts. Hein. Donc, voilà, ça reste assez flou. Moi-même, je suis pas non plus au taquet de tout, mais j'ai du mal à comprendre, à connaître vraiment les chiffres. Puisque quand on a fait la pièce, on disait 500 à 2000 morts. Aujourd'hui, on dit toujours la même chose alors que le temps passe et les gens continuent de mourir, en fait. Mmh. Donc, je n'arrive pas bien à comprendre. Je ne sais pas. En tout cas, c'est évalué de 500 à 2000. Mmh. Voilà.
On va peut-être pas entrer dans les détails, parce qu'on n'est pas médecin. Brièvement dire que les effets secondaires, comme la plupart des médicaments aujourd'hui, de toute façon, les antibiotiques, c'est de pire en pire, mais bref. Ce qui se passe, c'est que ça fait une déformation du corps, il y a un dépôt qui se crée sur les valves, et les valves du cœur deviennent inopérantes.
Voilà, sur les poumons et sur les valves du cœur qui entraînent une insuffisance respiratoire très importante.
75% de perdu sur les valves.
Dans certains cas, il y a des gens qui ont pris du médiateur qui n'ont rien, heureusement.
De Clartabar, c'est...
Une majorité même. Voilà. Mais la minorité, quand c'est vendu par millions...
Voilà.
Puisque ça a été très prescrit, puisque c'est un coupe-faim, c'est un anorexigène, et donc ça a prescrit à tour de bras, hors prescription. C'est-à-dire que normalement, c'est prescrit pour des diabétiques. C'est un coupe-faim, tout le monde le voulait. Voilà.
Comme souvent.
Et les laboratoires ont beaucoup poussé pour que ce soit vendu en dehors des prescriptions diabétiques.
Et c'est là où cette
question... C'est un médicament remboursé.
Et voilà.
C'est un médicament pleinement remboursé.
Je m'apprêtais à dire, je ne sais plus s'il n'y a pas la phrase « Elle n'est pas belle la vie » qui serait employée au début, oui.
La médecin Rizzo qui prescrit au début, là. Elle n'est pas belle la vie.
Je vais juste rajouter pour quand même être un peu... Justement, mais... au pénal, il n'y a pas que les laboratoires servis, bien sûr. Il y a les gens de la NSM, c'est-à-dire l'ancienne AFSAPS, qui ont laissé faire et dont certains étaient... absolument au courant.
Il y a un mot qui est utilisé par
l'association française. Vous étiez absolument au courant.
De prévention sanitaire française, l'association qui vérifie avant de mettre un médicament sur le marché.
Le terme est utilisé, il me semble vous parler de...
Agence française de sécurité sanitaire.
Mais de quel crime serait-il passible? Vous prononcez ce
mot. Co-homicide. Complicité d'homicide.
Il y a un autre terme. Moi, je sais qu'on dirait, je cherche à vous faire deviner le mot.
Non, mais oui, dites-le.
Corruption. Enfin, du moins, c'est...
Bien sûr, c'est ça. Ce terme est utilisé. Ça, c'est la base.
Ce qui est intéressant, c'est que là, auditeurs, auditrices, nous sommes dans des éléments très précis techniques. Grand talent de la pièce, tout ça est montré par le biais de Claire Tabar, avec son fils, Max. C'est juste après sa grossesse, puisque le petit Max pousse quelques petits cris, vagissements dans son landau. Quand la pièce s'ouvre juste après le prologue, Irène, Catherine, qui avez commencé. Donc on suit tout ce qu'on vient de dire à l'instant, médicaments coupe-faim, pour... on n'a peut-être pas dit que dans quelle situation surtout c'était employé, des femmes. Vous le dites un moment, je crois, il me semble, Catherine, le personnage d'Irène dit que ce sont ces mêmes types de personnes, des femmes, et que ce ne sont pas des personnes qui sortent de ce quartier financier français.
Des cadres de la défense, oui.
Et que donc ces personnes sont peut-être... Enfin, c'est pas, le raisonnement n'est pas poussé, mais c'est très intéressant. On laisse libre aux spectateurs, spectatrices, de pousser un peu la chose. Enfin voilà, donc bref, c'était des femmes en milieu peut-être en plus un peu populaire, peut-être. Enfin, je sais pas si le terme était employé.
Parce que c'était un médicament remboursé, donc ça s'est vendu comme des petits pains, comme on dit. Voilà.
Et donc tout c'est montré par la vie de Claire Tabar, avec sa sœur Cathy, qui est très présente.
On rencontre Claire Tabar qui a pris quelques kilos après sa grossesse et qui va voir son médecin, qui ne sait plus quoi faire pour perdre ses kilos.
Elle est bonne, les premières répliques aussi sur... moi, je ne sais pas comment elles font, ces femmes qui font du sport.
Marie-Nicole, très bien interprétée par Marie-Nicole.
Voilà, Marie-Nicole, qui fait un travail formidable parce que...
Moi, je pose mon gamin à l'école...
Ouais.
Catherine, oui. Et puis, bref, j'ai toute ma journée. Moi, j'arrive pas à faire tout ça.
Du sport, oui.
Effectivement.
Et donc, le médecin finit par lui prescrire du médiateur alors qu'elle n'a pas de diabète. Mm-hmm. Voilà.
Et qu'elle n'était pas demandeuse. Elle ne connaît pas ce médicament. Elle ne sait pas tout ce qu'il en est.
Et on retrouve ce médecin à la fin du spectacle. Bon, on va pas spoiler.
Non.
Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il y a du suspense. On se dit deux heures comme ça, il y a un peu de piano, on se dit qu'est-ce que ça va être, on va peut-être s'ennuyer, ou c'est triste, c'est terrible. Et en même temps, ça s'écoute, ça se regarde comme une tragédie contemporaine, avec toutes les subtilités.
Et puis le rythme s'accélère après, dans la deuxième partie.
C'est très juste, très, très bien mis en scène en termes de scénographie, de lumière, d'accessoires, de décors, de costumes, et de vidéos. La vidéo est très très bien utilisée. La scène est coupée en deux, mais c'est très, très bien fait, ça.
Par le biais de rideaux, notamment, il y a des projections très, très simples qui indiquent des dates, parce que voilà, auditeurs, auditrices, on n'est pas perdu au fil du spectacle.
Oui. C'est très lisible, c'est très pédagogique en même temps, sans être lourd et un peu indigeste ou rébarbatif, quoi. On est vraiment porté, on est dedans, On sait que c'est pas évident, il y a des silences pesants et c'est lourd, c'est dur parfois. Les gens qui ont peut-être revécu des maladies dans leur chair difficiles, ça va être dur s'ils vont voir ce spectacle. Et puis qui connaissent la maladie de près, les hôpitaux et tout, c'est vrai que c'est pas un spectacle facile, hein, faut le dire. Mais c'est un spectacle nécessaire et intéressant.
C'est pas un spectacle facile parce que il faut le vivre, vous voulez dire, en tant que spectateur ou
oui,
parce que
quand on a vécu ce genre d'expérience.
Oui,
non, voilà. C'est quand on a vécu, qu'on a des points communs avec ça.
Bah, c'est un spectacle très humain, non ?
Oui, très humain.
Enfin, voilà.
Humain.
Un spectacle qui parle du lien,
trop
qui parle
humain.
De la valeur qui dit que la vie humaine est précieuse, quoi. Que le lien humain est précieux et... Voilà, ça parle constamment de ça, je trouve. Mmh. Tout simplement dans mon rôle au départ, quand je parle des malades. Et puis, Claire, comment, avec son fils, la sœur qui soutient la malade, ses liens, enfin. Et puis l'avocat qui donne tout son temps pour pas beaucoup d'argent.
Non, c'est plein d'espoir, ça réconcilie avec la nature humaine, c'est pas que désespérant.
C'est ça, non, au contraire.
C'est empathique et c'est pas du bon sentimentalisme non plus, quoi. C'est justement ça.
Voilà, essaye de replacer les choses au bon endroit, c'est-à-dire qu'au fond, on vit avec notre cœur, quoi, dans tous les sens du terme, et donc,
c'est ça.
Faut pas l'oublier.
D'où le titre qui résume tout le spectacle.
Parce que Pauline, elle veut pas faire un spectacle triste.
Bah c'est pas triste.
C'est quelqu'un de très.
C'est l'histoire d'une lutte aussi.
C'est quelqu'un.
On rit parfois. On rit.
Oui,
parfois.
On peut rire aussi.
Il y a une blague sur la.
Oui, il y a de l'humour.
Pourquoi mais on ne dit pas la chute. Mais auditeur, auditrice, allez voir ce spectacle au moins pour avoir la réponse
aussi
à la devinette.
Heureusement.
Pourquoi les girafes ont-elles un long cou ? Voilà. C'est. Il faut.
C'est dans le texte.
Pour le connaître, il faut savoir. Non, ce qui est très fort, peut-être que je vous coupe, mais c'est. Il y a une autre dimension dans ce. Enfin, il y a une autre. Il y a plusieurs dimensions dans ce spectacle. Ce n'est pas que le médiateur. C'est vraiment, je trouve, bien plus encore. Parmi toutes les répliques, là on était en train de commenter un peu il y a quelques instants, la toute première quand Claire chez le médecin le fait comprendre, c'est peut-être pas très net à ce moment-là, elle travaille dans de la lingerie féminine et elle parle un peu plus tard dans le spectacle de l'image qu'est censée peut-être renvoyer une vendeuse et donc voilà, il lui faut perdre ces kilos en trop qu'elle a, et, enfin en trop, c'est là toute la question et donc j'ai la réponse.
C'est énorme en vigueur.
La réponse c'est Cathy qui la prononce, la réponse lorsqu'elle est elle-même, elle aussi auditionnée par une commission d'expertes. Il y a toutes différentes personnes, Catherine, qui sont présentes dans cette effrayante assemblée avec la chef, la patronne, la présidente.
Sonia Foix.
Elle est
magnifique.
Oui.
Elle est très bien en animatrice également. On pourra le commenter, ça peut-être ensuite, le fait que vous avez différentes casquettes. Donc, Cathy, auditionnée par la commission, Cathy qui dit... Oui, je comprends, elle aurait jamais dû prendre des coupes fins. Et moi, je suis trop grosse, je ne veux pas être mince. Je m'en tape de vos normes esthétiques, ça ne va pas non plus, hein. C'est nul aussi, on fait rien comme il faut décidément, rien pour vous plaire, on est toujours à côté de la plaque, hein. Mais peut-être que nous, on s'en fout de vous plaire. Peut-être que c'est ce qu'on aimerait, nous, c'est avoir la paix, qu'on nous lâche un peu, et que n'importe quel mec ne se croit pas permis de donner son avis sur notre physique comme ça pour le plaisir. On referait la scène autrement. Et c'est vraiment très fort. Moi, il me semble qu'il y a une charge.
Oui, tous les soirs, moi, j'aime l'entendre.
Il y a une charge féministe.
Tous les soirs, je suis émue de l'entendre.
C'est tellement d'actualité.
Mais oui, qu'on nous lâche.
Mais oui, mais. Ouais.
C'est vrai.
Et c'est dans une pièce dont on dit qu'elle porte sur le médiateur qu'on entend ça. Elle ne porte pas que sur le médiateur. Enfin, du moins, il y a bien plus de choses. Le personnage,
non, parce que le médiateur, on l'a. Il a beaucoup été pris, en tout cas,
oui, non,
quand
ce n'est
pas pour le diabète, pour correspondre à une norme sociétale, en tout cas des femmes.
Non, bien entendu, c'est le point de
norme sexiste et machiste. Hein.
C'est le point de départ des mots.
D'ailleurs, balance ton porc, j'en profite pour faire une petite digression. J'ai jamais aimé cette expression parce que c'est un manque total de respect pour les cochons. Il y a un documentaire sur Arte que j'invite nos éditrices auditeurs à regarder sur les cochons, qui sont des animaux très intelligents, aussi intelligents que les dauphins, des animaux très sociaux et qui sont merveilleux, qui sont gracieux, qui sont très, très, très gentils. Donc balance ton porc, c'était très mal choisi.
Bon, très bien, moi c'est dit. Catherine, donc est-ce qu'on l'évoque tout de suite ou alors est-ce qu'on écoute ta petite virgule musicale, le fait que vous êtes une petite, enfin non, vous êtes une belle équipe de 7, 8 comédiens, c'est ça ?
8, oui.
Et vous incarnez combien de personnages ?
3
chacun ? 15 ? 20 ?
Oui, on en a 3 chacun, je crois, il n'y a que Nico, Nico aussi il en a 3.
Il y a Abiker, c'est ça je crois ?
C'est Yann Burlot qui fait Abiker.
D'accord, il y a...
Mais alors, on fait tous, c'est un
avec une
plaisir,
transformation très réussie.
C'est un plaisir fou. C'est-à-dire en 10 secondes, on doit
super, nous, hein.
Complètement se transformer.
On y voit que du feu, nous, hein, les spectateurs.
Ouais,
parfois.
C'est une joie. Mais c'est aussi un jeu pour les spectateurs. Alors, ils sont où ? Qui est qui ?
C'est ça.
Qui fait quoi ?
Si on écoutait la petite chanson du pharmacien de Félix Leclerc d'une minute 09, chantée par Catherine Sauvage.
Ben je l'ai retrouvée. Je l'ai. Pourquoi la pertinence? C'est parce que c'est...
Bah, la chanson du pharmacien, c'est une chanson populaire, je pense, peut-être revisitée par Félix Leclerc. C'est chanté par une femme, déjà. Alors nous, on fait toujours ça la parité. Ici, on essaye de faire chanter autant les femmes que les hommes. Et puis, comme ça parle des pharmaciens, il y avait aussi dans les pharmacies de Charles Trenet, mais celle-là, c'est une histoire sordide. C'est comme Périnette et Servante. Tout le monde connaît Périnette et Servante. Ça finit très mal. Le type, il finit trucidé dans un tonneau, quoi. Hein. C'est toujours comme ça, les chansons populaires. C'est des faits divers sordides. Et là, le pharmacien se fait assassiner. Alors, ça donnera peut-être des idées. Au moins, assassiner pénalement, ça serait déjà pas mal.
Une toute petite chanson canadienne de Félix Leclerc, la chanson du pharmacien. La fille, en coupant son pain, s'est coupée dedans la main, affolée, en criant, a couru chez le pharmacien. Rendu chez le pharmacien, on cherchait un assassin qui venait de tuer le pharmacien dans un coin. Quand la fille est arrivée, on l'a d'abord soupçonnée, on lui a barré le chemin à cause du sang dans la main. Mais c'est en coupant mon pain que je me suis coupée la main, les voisins, le yoncoin, disaient c'est pas bien malin. Elle a dit, bande de crétins, je vais vous faire voir le pain. Mais le pain, il n'y en avait point, il était dans le ventre du chien. Elle a ri, et la jeun, que pensez-vous qu'il advint? On l'a mise dans le moulin, il sera pendu demain. Quand vous couperez du pain, ne vous coupez pas la main. Surtout si un assassin vient de tuer le pharmacien. Vous comprenez, c'est pas du tout pour nous.
Gérald, c'est à peine une chanson, ça. Il y a 10 secondes d'applaudissements. C'est
oui, mais ça parle de meurtre en série, quand même, de faits divers glauques, chansons populaires, ritournelles. Un peu à la Pérec, toutes les chansons qui sont toujours cruelles, en fait.
Il et ça va bien avec la pharmacie, là. Encore un bon quart d'heure à passer en compagnie, en très bonne compagnie, avec Catherine Vinatier pour cette émission 192. Je ne sais plus si je l'ai indiqué en début d'heure. Mon cœur, de Pauline Bureau. Le texte est de Pauline Bureau. La mise en scène est également de Pauline Bureau. Non, peut-être davantage. Tu proposes de lire, mais c'est toujours soyons plus vivants.
Bah, l'intention de Pauline Bureau me paraît intéressante. On la lira peut-être avant la fin de
l'émission. Nous avons une comédienne, mais pas en entier. Ou alors il faut faire des sections de passage.
Ouais.
Parce que puisque nous avons la comédienne qui en plus incarne Irène Frachon, enfin, c'est quand même capital, vous intervenez un peu en pointillé. Il me semble que c'est au début, on vous voit, vous êtes sur scène, vous ouvrez.
Ouais.
Puis après, on voit plus, je crois, pendant peut-être 5-10 minutes, non, il me semble, je sais pas. Puis après, on vous revoit, puis après, on ne vous plus. Et puis alors après, on vous voit bien pendant toutes les commissions, le matériel, vous avez le matériel? Oui, vous êtes donné comme matériel.
Pas les commissions, c'est quand elle vient à la FSAPS, essayer de faire retirer le médicament de la mise sur le marché, l'autorisation de mise sur le marché.
Et puis on voit cette scène intéressante, tu la nommais tout à l'heure, Marie-Nicole, vous rencontrez donc... Claire Tabar, c'est à Lille. Vous êtes en déplacement à ce moment-là pour assurer une sorte de formation aux nouveaux médecins pour les conflits d'intérêts, enfin du moins mettre
Irène
en garde.
Irène Frachon, elle est, dès qu'elle peut, parce que son métier la prend
de
beaucoup.
De pneumologue à Brest.
De pneumologue, et bon, d'autant plus avec le médiateur, elle est tellement investie que... Puis elle, je crois qu'en médecin, elle est super investie en fait. Mais bon, dès qu'elle peut... Elle accepte toutes les demandes de rencontres des universités pour informer les jeunes médecins des conflits d'intérêts qui existent, des possibilités de conflits d'intérêts qui existent avec les laboratoires. Quoi.
On lui demande d'ailleurs d'en parler. Dans une scène, on lui demande de se présenter, d'indiquer quels sont ses intérêts qu'elle peut avoir.
Ça, c'est pour la commission d'enquête.
Et le troisième point est très bon.
Sur le médiateur, où on lui dit, comme à n'importe qui, vous allez parler et donc donnez-nous avant vos possibilités de conflit d'intérêts, quoi, vos liens d'intérêts. Donc elle dit, je bosse pour telle firme pharmaceutique, voilà.
Et le troisième, c'est un peu dévoilé, ou le troisième point, j'ai des intérêts.
Et oui, le troisième point où elle dit qu'elle a des intérêts, des liens d'intérêts, c'est évidemment avec ses patients. Donc là, elle prend le temps donc à la télévision, donc il faut beaucoup de courage, parce qu'elle prend le temps de citer tous les... Elle sort un papier et elle cite tous les prénoms de ses patients qui ont été atteints par le médiateur. Et parce que sa lutte, c'est beaucoup...
Des gens.
Oui, c'est toujours de les humaniser, d'arrêter de dire c'est des malades.
500 morts, 2000 morts, 1000 morts, 300 000, 2 millions, 5 millions de personnes.
C'est Auguste, c'est Michel, c'est
Jacqueline.
Colette, c'est Jacqueline.
Petit commentaire sur Jacqueline. Il y a des traits d'humour, c'est pas désopilant, mais c'est bon.
Elle fait un petit trait d'humour sur Jacqueline, et en même temps c'est un trait d'humour Et en même temps, c'est ils n'ont pas de nom moderne, si elle dit. Voilà, elle dit. Ils s'appellent aussi Yvette, Jacqueline.
Et ce ne sont pas les cadres de la défense.
Voilà, c'est pas les cadres de la défense parce que la question est pourquoi personne n'en a parlé de ces morts du médiateur pendant tant d'années, même quand le médicament était interdit, personne n'en parlait. Mais c'est aussi parce que ça touche des gens dont personne ne parle jamais. Donc, parce qu'ils n'ont pas de moyens de défense, ils n'ont pas de moyens de comment on dit, d'expression.
Ah, d'où Hugo. Mon rôle, c'est de faire en sorte, Claire, que votre voix
soit entendue. Voilà comment faire le porte-voix. Et c'est pour ça qu'elle a écrit un livre, hein, et qu'elle a pris des risques considérables d'écrire ce livre.
Et vous terminez cette liste, c'est absolument affreux. Dans cette liste que je viens d'indiquer, 5 noms. 5 personnes
sont décédées et 11 ont dû subir de lourdes interventions à cœur ouvert. Donc 5 personnes sont décédées, oui. Oui, bien sûr. Et elle dit ça très franche, elle est très franche. Très franche. C'est-à-dire, elle ne prend pas le temps des atermoiements et intrachants, mais de toute façon, elle ne peut pas. Avec tout ce qu'elle vit, enfin, c'est une médecin hein, quand même, donc voilà, médecin d'hôpital.
Mais c'est bien, le rapport passe bien là, parce que rappelez-vous, la question initiale c'était vous rencontrez Marie-Nicole, vous rencontrez Claire Tabat, donc en déplacement à Lille, et le rapport passe bien parce qu'elle dit qu'elle vient de danser ou je sais pas quoi, ou non, elle dit quand mon téléphone a sonné, ma soeur m'a appelé, vous avez entendu la radio, j'ai cru que c'était le traiteur. Ah, un traiteur, oui, ma soeur se marie. Ah ben, un mariage, je comprends.
C'est pas un traiteur. Non, parce qu'elle est hyper vivante.
Et voilà, il y a de l'empathie, elle est proche, et ça sonne pas faux, quoi. Enfin, du moins, c'est vous, Catherine Minatier, mais c'est Thyrène Frachon, et c'est du théâtre, et c'est bon.
La conscience de la vie quotidienne, la conscience de l'humanité de la personne, on n'est pas dans les sphères philosophiques. C'est la vie, on parle donc d'une vendeuse de lingerie, donc ça parle de petites culottes à un moment.
C'est ça, voilà.
Donc, comme une jeune fille hier qui me disait, j'ai bien aimé la scène chez le tatoueur, on ne voit jamais ça.
Au théâtre.
Oui, alors je lui dis, mais t'es tatouée toi, non alors? Elle me dit, oh, un petit peu. Mais c'est vrai, Pauline, elle sait très bien faire ça, trouver des endroits. C'est pas de l'indiscrétion, au contraire, parce que tout le monde les connaît. Mais des petits endroits comme ça, d'habitude, on n'en parle pas. Des endroits un peu cachés, mais c'est pas grand-chose.
Même le bloc opératoire.
On ne parle pas des traiteurs, en fait, non. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose, tout le monde le reconnaît dans la salle, parce que tout le monde sait que c'est important, le jour du mariage, le traiteur.
On nommait les comédiens, Marie-Nicole à l'instant, cette rencontre, moi, il y a un truc, voilà, toutes les deux, elles parlent. Non, moi, je crois que vous l'aurez. Le courage de s'opposer, parce que justement, à ce moment-là, Claire Tabar dit qu'elle n'aura pas ce courage.
Oui, parce que si elle veut... Parce que Claire est en colère. En colère d'avoir pris ce médicament.
Ah, quelle
pourquoi
conne. Elle s'en veut.
Pour être jolie. Et donc, elle a honte de ça. Et des fois, j'ai l'impression que Irène, à ce moment-là, quand elle dit qu'il y a une procédure, vous savez, il y a des milliers de victimes, elle essaye de retourner cette colère au lieu de la retourner contre vous. Il y a des coupables. Retournez-la, quoi, votre colère, pour la sortir d'elle. Parce que non seulement ces gens, sont en train de perdre leur vie, enfin de s'abîmer, mais en plus, ils se portent la honte et la culpabilité.
C'est dans l'intérêt des fautifs que ces gens se culpabilisent et se taisent. Comme
c'est
souvent dans ce genre d'affaires, hein. Ils attendent que ça, que les gens aient honte.
Donc là, tout d'un coup, ça leur fait gagner. C'est ce qu'elle dit aussi après. Le procès est nécessaire, il est nécessaire pour aussi établir une vérité.
D'intérêt général.
Ouais, une vérité pour que la société arrête d'être dans le mensonge, hein, comme dans le secret, dans le mensonge, comme enfin ça touche.
Une pièce de salut public, une pièce de service public.
Mais oui.
Une pièce. Moi, je pensais donc que je voulais nommer une autre personne.
Une pièce de gilet jaune. Hein.
Je n'ai pas son nom. C'est la comédienne qui incarne le petit Max. Il est sympa ce couple mère-fils. C'est tu as tous les noms toi, Gérald. Moi,
oui.
je vais le retrouver. C'est pas Sonia Floire, c'est la kinésithérapeute. Non, vous l'avez nommé d'ailleurs tout à l'heure. C'est ça. C'est Camille Garcia qui joue Max Tabar, docteur Rizzo. Punaise, c'est elle, le docteur Rizzo. Ah, purée.
Moi non plus, je n'avais pas remarqué que c'était aussi le docteur Rizzo.
J'allais
le percevoir.
Ah oui, elle fait un enfant de 10 ans. Et elle fait...
mais c'est génial. Le monsieur
journaliste, il faut le dire, au futur. Ouais.
Et pareil, vous évoquez l'humain, le fils Max qui ne veut plus aller à l'école, que sa mère cherche à le forcer un peu. Quand elle le force, il vomit. Ça peut être parlant, c'est effectivement, ça peut être
parlant. Ça parle beaucoup, c'est un théâtre de terrain, de cru.
Oui, et puis son homme à elle, qui finit par plus rien comprendre et pas oui, plus avoir être. De rapport avec c'est elle, et, parce qu'elle, elle est tellement épuisée. Ouais. Et, c'est-à-dire que quand on est malade comme ça, c'est toute ta vie qui se disloque. C'est-à-dire que tu perds ton boulot, tu perds ton mec, tu perds... Tout. Voilà, tout ça, c'est ça la force de Pauline, c'est d'avoir mis le malade là, devant. Et pas forcément juste la sauveuse ou le sauveur devant, c'est qu'est-ce que c'est toutes les conséquences. Bon, ça vient à point nommé pour le procès.
Alors, on n'a pas dit tout à l'heure, il y a trois focalisations qui s'entremêlent, la vie de Claire Tabard, d'Irène Frachon et de l'avocat, qui est un excellent comédien aussi.
Hugo. Nicolas Chupin.
Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu, cette histoire est vue à travers ce prisme-là.
Très drôle, ce personnage très plein de vie, plein d'énergie, plein de colère également, mais alors vraiment pour le coup une colère très, enfin du moins qui tourne tout à fait vers cette action, classe action, enfin vers cette procédure qu'il entame, et c'est très bon toutes les images qu'il peut utiliser sur la voiture pour faire comprendre la pénale et civile, enfin tout un tas de choses, la blague, c'est lui l'auteur de la blague, auditeur sur le pourquoi. La girafe a-t-elle un long cou ? Bref, il est plein d'énergie et c'est lui qui retourne à la fin aussi, ce salaud d'avocat servi avec les sorties en boîte de nuit au Pink Flamingo. Mais nous en disons trop sur... Elle sort tellement au Pink Flamingo que ça lui est reproché. Mais Hugo est très fort, il rattrape le coup. Gérald, ouais.
La méchanceté des personnages est en deçà de la réalité. Il faut bien préciser ça, que c'est du spectacle, c'est transfiguré par l'art. On a parlé des lumières, des tableaux.
L'avocat servi, Anthony Rouillet.
Voilà. Et les avocats méchant. Sont bien pires dans la réalité que dans le spectacle, en fait.
Oui.
On nous a précisé.
Plusieurs fois, oui. Oui, il y avait une malade que nous on connaît, qui est venue hier, qui nous a dit à quel point elle n'entamait pas de procédure parce qu'elle ne voulait plus se retrouver devant les avocats de servi. C'était trop. Qu'ils étaient trop violents.
C'est ça.
Voilà. Alors qu'elle aurait vraiment des raisons. Et de l'intérêt,
pas le coup, quoi.
En fait.
Parce que ça remue toutes les douleurs, et puis on est obligé de s'humilier. La scène où elle est obligée de montrer son
corps. Oui, et on est, paraît-il, en deçà de la réalité. Donc,
Alors c'est un sujet d'actualité, puisque tout à l'heure j'écoutais les infos, et en ce moment, aux États-Unis, il y a des centaines de morts par jour qui sont liées à des dérivés d'opium, qui ont été abondamment prescrits et pris par les Américains. Mmh. Et en ce moment, plus de morts par cette opiacée-là, qui a un gros défaut de fabrication, les gens en meurent par overdose tous les jours. Il y a plus de morts de cet opium que d'accidents de la route aujourd'hui aux États-Unis. Et l'entreprise, dont j'ai oublié le nom, qui a diffusé massivement avec toujours les mêmes méthodes techno-fascistes, capitalistes, sauvages, voilà, propose 270 millions de dollars, quoi. Alors que ça fait déjà des milliers et des milliers de morts. Donc c'est toujours rien, l'argent. Il y a une très belle question dans le spectacle, c'est combien je vaux moi, combien vaut un cœur, un vrai cœur, organe, et puis combien ma vie, elle vaut. C'est toutes ces questions que ça bouscule, finalement. Puisque les individus sont quand même...
C'est ce que dit Claire, hein, une voiture, quand tu lui expliques la métaphore de la voiture, elle dit, une voiture, je comprends, mais mon cœur, ça vaut quoi ?
Voilà. Elle pose ce genre de questions, et là, vous parlez de philosophie, mais là, il y a une vraie dimension existentielle et métaphysique.
Mais oui.
Pour le coup.
Oui.
Et puis, on apprend des choses au niveau de procédure, tout simplement, de tribunal, de pénal, de civil. On apprend des choses, c'est vraiment pédagogique.
Oui, parce qu'on est bien obligé, là, à cet endroit-là, de faire un rapport entre l'humain qui est infini et l'argent. Voilà. Parce qu'on parle d'indemnisation. Donc.
L'identification
personnelle. La réparation, elle est sous différentes formes, quoi.
Peut-être qu'il y a des spectateurs qui parviendront à s'identifier à l'avocat de Servier, j'en doute, mais peut-être aussi dans la salle, certains pourront s'identifier.
Mais oui, puisqu'ils existent, les avocats de Servier. Donc
ils vont peut-être au théâtre, à la Croix-Rousse.
Je ne sais pas si vous allez voir cette pièce.
Je conseille à tous les auditeurs, ils sont nombreux qui travaillent dans les lobbies pharmaceutiques et qui vont n'importe qui.
Des gens qui sont venus en Onaï. Ah, on les a vus au débat.
Avec le bord de scène.
Mais c'est des gens qui étaient partis.
comme par hasard. De nouveaux lanceurs d'alerte, sur d'autres médicaments.
Parmi les différentes dimensions dont tu parlais, Gérald, il y a également ces dimensions. On peut également la citer, même si c'est peut-être un peu moins important. Dimension esthétique, il y a un beau tableau de Hopper qui apparaît comme ça.
Ah oui, je crois qu'il pensait à lui, mais on aurait pu penser à lui.
C'est juste avant votre rencontre.
Emmanuel Roy, oui, qui a fait la scénographie.
C'est juste avant votre rencontre.
Très efficace.
Catherine,
avec. Qui
travaille. Avec Claire Tabard.
Pardon, vas-y.
Je vous en prie.
qui est en compagnonnage depuis de longues dates de Pauline Bureau.
C'est bien quand on se connaît, alors on peut arriver à de belles choses.
C'est une du spectacle.
Une scène nue avec Claire Tabar qui est en blonde peroxydée tout à droite et puis une forme jeu de lumière un peu.
Il n'y a rien de gratuit en fait.
Dans les bars, c'est ça, de Hopper, Edward Hopper.
En termes de lumière, de dispositif vidéo qui permet de voir le chant contre chant en direct, il n'y a jamais rien de gratuit. C'est toujours au service du message, du spectacle global, quoi.
Cette pièce, jusqu'à ce vendredi 29 mars, c'est un peu court. Si vous souhaitez la voir, je crois que c'est
la 80e. Hein, enfin, ça fait au moins 80 fois qu'il le joue et c'était la première hier soir.
Si vous sinon, ils peuvent venir à Nice, ils peuvent venir à Quimper.
Ça continue.
À Nice, ça va faire un tabac parce que beaucoup de coupe-fin médiateurs ont été prescrits vers les plages avant l'été. J'en crois la note d'intention de Pauline Bureau.
Oui, oui, c'est vrai.
Les remerciements, peut-être Gérald, parce qu'on arrive en fin d'émission, j'aimerais faire quelques annonces et puis
Je tiens quand même à lire le final de Pauline Bureau, de sa note d'intention sur le programme de la Croix-Rousse. J'ai travaillé sur les secrets de famille avec Sirène. Le spectacle raconte à quel point mettre des mots sur les choses nous libère. De même que dire me semble être la condition de la bonne santé d'une famille. Raconter les défaillances d'une société et le courage qu'il faut pour les combattre me semble capital. Pour résumer quand même...
Extrait de sa note...
La volonté note fondamentale de ce spectacle, qui est d'alerter aussi à sa manière par les moyens de l'art théâtral.
Dans ses remerciements, bien entendu, Pauline Bureau remercie l'auteur, elle-même, elle remercie Irène Frachon, les victimes du Médiator et différentes personnes. L'AFSAPS a changé. Hein, L'AFSAPS, Pauline Bureau s'est également inspirée du compte-rendu public de l'AFSAPS, Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui a changé de nom. Hein, maintenant, c'est l'Agence française de je ne sais plus quoi. La corruption était telle, enfin du moins, les problèmes ont été tels que l'alerte, les différentes alertes, vous les évoquiez tout à l'heure, je crois que c'est dit pendant la pièce 17. Sept médecins ont alerté. Il s'est rien passé. Il a fallu Irène Frachon.
Enfin, il s'est passé des choses,
mais pas assez.
Ce qui s'est passé, c'est que c'est les médecins qui ont été menacés.
Les médecins? Ah bon, et ben alors.
Voilà, c'est ça qui s'est passé.
Il s'est passé quelque chose. Pour terminer, moi, j'avais quelques annonces. Gérald, tu en as aussi qui peuvent aller ces annonces. Moi, c'est pour la semaine prochaine. C'est pour la semaine prochaine. Il est question. Le festival se termine, festival d'opéra, avec l'opéra Le Retour d'Ulysse dans sa patrie de Claudio Monteverdi. C'est par la célèbre Handspring Puppet Company de William Kentridge. C'est une magistrale mise en scène du Retour d'Ulysse. C'est à la Maison de la Danse. C'est du 29 mars au 3 avril, donc 29 mars. Ah ben non, alors le 29 mars, n'y allez pas. Allez plutôt voir la dernière de mon cœur. Mais vous pouvez y aller ensuite, vous pouvez y aller jusqu'au 3 avril. Nous-mêmes, on ira, Gérald, peut-être, hein, mercredi prochain.
Oui, j'espère bien.
Ce sera la dernière.
Scénographie de William Kentridge. Hein.
Voilà, c'est exactement.
Immense artiste.
C'est ce que j'annonçais. Attention, hein, c'est une production de l'opéra, mais c'est à la Maison de la Danse. Et puis, il y a également une petite Iliade qui est donnée ces jours-ci au TNP. Et vous pouvez faire les deux parce que c'est donné un peu plus tôt. C'est donné en scolaire à 14h30 et éventuellement à 18h. Et bah voilà, 18h, en fait, ce sera samedi à 18h. Bah, samedi sera terminé mon cœur de Pauline Bureau. Petite Iliade en un souffle, d'après Homer, adaptation de Julie Rossello Rocher, mise en scène de Julie Guichard. J'ai vu ça la semaine dernière, c'est de qualité, c'est un bon spectacle et c'est bien de lire du théâtre, de lire du Homer et tout ça, et de lire du Pauline Bureau. Mais Pauline Bureau, quand elle met en scène, il fallait le voir. Parce que de l'humain, dans du papier, on le sent pas assez. Et il faut voir Marie-Nicole, il faut voir Suzy Floire, il faut voir également Sonia Floire, il faut voir Camille Garcia, il faut voir également Anthony Rouillet, Yann Burlot, Nicolas Chupin, Rebecca Finet. Et puis, il faut aller voir vous-même. Catherine Vinatier, mon cœur à la Croix-Rousse, jusqu'à ce vendredi 29 mars. Nous terminons, Gérald.
Ah bah avec un petit commerce, hein. Parce que tout est bon, hein, pour faire tout est bon dans le cochon. Si Boris Vian était de ce monde, il aurait pu rajouter j'ai vendu du moulin, j'ai vendu du Mediator, et maintenant je vends des armes.
Gérald.
C'est la même chose.
C'est.
Des voitures.
Bien sûr, la même chose.
Qu'est-ce que je lance, Gérald? Qu'est-ce que je lance? Laquelle?
La 24, par exemple.
Tout ça. Ouh là là, mais il y a trop de pistes.
La 24, là-bas. Le petit commerce.
Ça vient d'où?
Soit on a l'anthologie de Boris Vian, soit on l'a pas.
Non, ouais. Gérald, il est temps de se dire au revoir à 15h. Le blues des canuts va commencer dans quelques instants. On se dit à la semaine prochaine, Gérald? Oui.
Oui, il y a des chances.
Très bien, dans deux semaines aussi.
Avec une institution plutôt muséale. Hein.
Puis ensuite,
on est sur deux pistes, mais puis ensuite, on attend confirmation.
Il y aura relâche après. Catherine, si on souhaite vous revoir, c'est à Nice, vous dites à Quimper, c'est ça?
Oui, c'est ça. Le voilà. 15 et 16 mai. Oh, et le 23 et 24 mai.
Et à Lyon, Pauline Bureau reviendrait-elle au théâtre de la Croix-Rousse?
Il y a j'espère, des chances.
J'espère, l'année prochaine. Bon, bah alors on espère.
On va parler de vraiment autre chose l'année prochaine.
Vous reviendrez nous voir.
Il faut le dire.
On va parler du foot.
Comme toujours en fin d'émission, on n'a pas tout dit. Allez voir cette pièce, Mon cœur, donnée jusqu'à ce vendredi 29 mars, théâtre de la Croix-Rousse. Renseignements et tout à prendre sur le site, numéro de téléphone, tout ça.
J'ai pris un petit duo de Dany et de. Hein, l'amour de Dao et de Dany quand même.
Auditeurs, restez à l'écoute des programmes de Radio Canu. Blues des Canus à venir dans quelques instants. Mayday tout à l'heure à 18h, juste un peu avant. On n'arrête pas le prog à 18h. Canu Info à 19h. Gérald Way, à chaud.
Notre comédienne ici présente est transformiste, se déguise très bien. Et en plus, elle est chanteuse et elle chante très très bien le baroque.
Ah oui.
Mais on ne dit pas quand.
On aurait pu mettre du Dentot de Bach. Mais non, nous écoutons, tu as dit Boris Vian, c'est ça?
Oui, le petit commerce.
Restez à l'écoute des bandes continues de Radio Canu. Au revoir Catherine.
Bon après-midi, au revoir.
Merci
au
beaucoup.
Au revoir.
Et
merci.
Merci.
Ciao Gérald. Et au revoir tout le monde, bye bye.
Et toujours aussi florissant, le petit commerce. J'ai vendu du mouron, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés. J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir, des peignoirs en corozo, des limes et des hachoirs. J'ai essayé des fraises, j'ai tâté du muguet. J'ai rempaillé des chaises, réparé des bidets. Je tirais ma charrette sur le mauvais pavé. J'allais perdre la tête, mais j'ai enfin trouvé. Je relinquais des lacs dans les rues de Paris. Depuis que j'ai compris la vie, j'ai un petit hôtel, trois domestiques et un chauffeur. Et les flics me saluent comme l'un des leurs. Je vends des canons, des courts et des longs, des grands et des petits, j'en ai à tous les prix. Y a toujours un amateur pour ces délicats instruments. Je suis marchand de canons, venez me voir pour vos enfants. Canons à vendre. Des industriels, bah c'est pas la peine de les consulter. Ils sont toujours prêts. C'est évident, une guerre pour eux, c'est tout avantage et ça les intéresse spécialement. Les raisons sautent aux yeux. Une pelle mécanique, une locomotive, ça met des années à s'user. Ce n'est pas mal parce que ça fait du tonnage, mais c'est bien moins intéressant que les canons. Les canons, ça s'use tout de suite. Et du même coup, ça sert à détruire les pelles mécaniques et les locomotives, dont on peut par la suite racheter la ferraille pour presque rien. Avec votre ferraille, on forge ces engins qui foutront la pagaille parmi ceux du voisin. Ça donne de l'ouvrage à nos bons ouvriers et chacun envisage de fonder un foyer. Pour se faire des finances, on fabrique des lardons. On touche l'assurance et les allocations. Moi, ça n'a pas d'importance car lorsqu'ils seront grands, ils iront en cadence crever pour. Je vendais des canons dans les rues de la terre, mais mon commerce a trop marché. J'ai fait faire des affaires à tous les fabricants de cimetières, mais moi, maintenant je me retrouve. Le cœur content, le pied léger, je danse la Carmagnole, y a plus personne sur le pavé. Je danse la Carmagnole, y a plus personne sur le pavé. Je danse la Carmagnole, y a plus personne sur le pavé. Canon ensemble.